cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 24 janvier 1992.
Une question. Vous nous avez dit que l'adoration devait s'achever en contemplation, ou plutôt à la soif de contemplation, puisque celle-ci ne dépend pas de nous au niveau de l'éthique religieuse. Or, en sagesse, il semble que le philosophe est capable de contempler par lui-même. Quelle différence y a-t-il donc entre la contemplation philosophique de sagesse et la contemplation au niveau éthique religieuse? Aucune différence. La contemplation philosophique ne peut être qu'une contemplation religieuse. Je m'explique. Vous compreniez bien. Petit signe que je vous donne tout de suite. Le traité de contemplation dans Aristote se met en éthique et non pas en métaphysique. C'est très significatif. L'éthique étudie les opérations volontaires. La métaphysique étudie l'être. L'être ne contemple pas. Il est. On découvre l'être premier que nous contemplons. Ce n'est pas la contemplation de Dieu que je découvre dans la contemplation religieuse. Je contemple Dieu qui est sa propre contemplation. Mais la contemplation de Dieu m'échappe. Je l'affirme que Dieu ne peut être que contemplatif. Que la seule activité propre à Dieu, c'est la contemplation. Il est la contemplation de la contemplation. Mais ce qu'est cette contemplation, je ne la vis pas. Ce que je vis, c'est ma contemplation de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Alors, ceci c'est le petit signe. La contemplation philosophique ne peut être étudiée qu'en éthique. La contemplation, c'est l'opération humaine la plus parfaite qui dépasse d'une certaine manière, tout dépend comment on appelle l'éthique, qui dépasse l'éthique des vertus. C'est sûr. Stoïcienne, qui est au niveau des vertus, ne parle plus de la contemplation. Parce que la contemplation regarde celui qui donne le sens à toute ma vie humaine, celui qui est la fin de toute ma vie, et non pas les moyens. Les vertus sont des moyens, c'est des moyens en vue de la fin. Tandis que la contemplation finalise, elle me donne le bonheur. Donc, elle est, d'une certaine manière, ce qui donne le sens à toute éthique. Cela, c'est ce que Platon a très bien vu, parce que pour lui, l'éthique vient de la finalité, vient de la, je veux dire, vient du, de la contemplation. C'est une éthique de contemplation, Platon. En cela, il a raison qu'il n'y a pas d'éthique religieuse sans la contemplation. Nous avons vu qu'il y a une éthique humaine à partir de l'amitié. Dieu, c'est l'éthique du bonheur. Et le bonheur est la contemplation. Il y a deux espèces de bonheur. Le bonheur de l'amitié, le bonheur de la contemplation. Parce qu'il y a deux finalités. La finalité au niveau proprement humain, typiquement humaine, et la finalité qui dépasse l'homme, et qui est la contemplation. Alors, précisons. La contemplation ne peut être que la contemplation d'une personne qui, elle, est la personne première, absolue, qui est Dieu. Ce que les traditions religieuses appellent Dieu. Dans l'amour d'amitié, il y a bien une certaine contemplation de l'ami. C'est sûr. Parce que je l'aime, je le trouve beau. Les autres le trouvent très laid, mais moi je le trouve beau parce que je l'aime. Comme la mère pour son enfant. Vous voyez, c'est un côté subjectif de la beauté qui fait qu'une très grande affectivité vous fait découvrir certaines choses. un ami humain ne peut satisfaire totalement la soif d'amour, la soif de bonheur qui est en moi. C'est dans ce sens-là que l'amour d'amitié nécessairement me conduit à découvrir l'au-delà de l'ami qui sera l'être premier, l'ami parfait, Dieu. C'est la voie d'accès la plus immédiate à la découverte de Dieu, l'amour d'amitié. C'est par l'amour d'amitié que, de fait, philosophiquement parlant, pour saint Thomas, c'est la quinta via, au point de vue critique et au point de vue métaphysique et théologie naturelle, c'est l'amour d'amitié qui est la voie la plus excellente et la plus directe. C'est normal, puisque la personne humaine, je la saisis dans toute sa force grâce à l'amour d'amitié. C'est mon expérience la plus parfaite de la personne humaine que je peux avoir dans l'amour d'amitié. Et c'est donc par l'amour d'amitié que je suis le plus proche du dépassement de la personne humaine. Et donc l'appel vers le dépassement le plus absolu qu'est la découverte d'un être premier qu'on appelle Dieu. Alors, comprenons bien qu'il ne peut pas y avoir de contemplation humaine au sens absolu en dehors et mon adoration pourront aller beaucoup plus loin. métaphysique, grâce au jugement d'existence, touche le réel. Et quand elle affirme l'existence de Dieu, elle dévoile le réel. Le réel, le plus réel qui soit. Saint Augustin dit, la res, c'est Dieu. Tout le reste, ce sont des signes. C'est du symbole. La res, c'est du Saint Augustin. Donc, il y a tout un aspect platonicien qui, de temps en temps, peut servir de Platon pour mieux montrer la chose. La res, c'est Dieu. La res, il n'y a rien de plus réaliste que la res. C'est la réalité. La réalité, c'est Dieu. C'est vrai que il y a toujours une petite tentation qui demeure de repliement sur ma manière de connaître. Et ma manière de connaître que je mets en pleine lumière, en critique, reste abstraite. Ma manière, mon pose, mais ce que je touche est concret. Ce que j'atteins est concret. Je suis loin d'existence, qui est un acte d'être, et qui est un acte par excellence, l'acte pur, qui est l'être premier. C'est pour ça que la métaphysique me permet seul d'atteindre le vrai bonheur humain. C'est là où je vois la nécessité de la métaphysique, la nécessité de la sagesse philosophique. Si je n'ai pas cette sagesse philosophique, mais je n'atteindrai jamais le bonheur humain. Alors, nous savons qu'en tant que croyants, nous atteignons un bonheur plus grand. Alors on peut faire l'économie de ce bonheur humain. C'est ce que font des quantités de chrétiens. Et ils ont raison en tant que chrétiens. Mais le chrétien lui-même sait que c'est nécessaire de faire de la métaphysique pour purifier son intelligence radicalement et permettre à sa foi d'être libre dans son exercice et d'aller beaucoup plus loin. Et à ce moment-là, la métaphysique et la sagesse philosophique est en quelque sorte ce qui me permettra d'aller beaucoup plus loin. D'une certaine manière, au point de vue de mon conditionnement, elle purifiera tout mon conditionnement. Donc elle me permettra d'aller plus loin en sagesse mystique. L'Esprit Saint peut très bien suppléer à tout ça. Petite Thérèse. Mais parce que Thérèse, Dieu ne lui demandait pas de faire de la métaphysique. Mais nous, Dieu nous le demande. Alors l'Esprit Saint ne peut pas suppléer. Dieu nous demande au moins de nous orienter vers ça. Et si je méprise, l'Esprit Saint nous fera comprendre un jour que c'est grave. Puisque l'Église nous demande. C'est l'Esprit Saint et l'Église. Et vos supérieurs le demandent. Vous êtes coincés par tous les bouts. Dieu ne demande pas qu'on soit un contemplatif au niveau humain, mais qu'on en ait soif. Dieu ne demande pas d'être un métaphysicien qui sera capable d'enseigner la métaphysique, non. Mais qu'on en ait soif de la vérité, et qu'on veuille aller jusqu'au bout, et qu'on fasse tout ce qui est dans notre pouvoir. L'Esprit Saint n'aime pas les paresseux. Et n'aime pas les dilettantes. C'est une excellente conclusion du chapitre. L'Esprit Saint n'aime pas les paresseux et les dilettantes. Il veut que nous soyons toujours prêts à cette recherche de la vérité. On a tout le temps, le désir d'aller plus loin. Et ça, tout le monde peut le faire. Tout le monde. On peut tous lutter contre sa paresse. Ça, bien évident. Et la plupart du temps, si au fond, c'est à cause de la paresse. On s'est pas réveillé assez, quoi. On n'a pas vu un test. Il y a de multiples manières d'entrer en philosophie. La philosophie de l'art, l'éthique, l'amour d'amitié, même la politique. Je vous demande pas d'en faire, mais même la politique. Qu'elle nous montre les limites des relations humaines. Et donc on essaie de trouver une autre voie. Un dépassement de la politique. La philosophie de la matière, la philosophie du vivant, tout ça nous conduit à la métaphysique. Alors, il peut y avoir des a priori très vieux, très vieux. On a vécu dans un milieu positiviste. On a respiré un air positiviste. Très très vite, à l'école maternelle. Alors ça reste. Alors il y a des choses qui arrêtent. Et dire, moi je suis pas philosophe, j'entends, je ne comprends rien. Mais faites l'effort de réfléchir sur ce que c'est que l'amour. Et par là vous entrerez en philosophie. Faites l'effort de travailler, de réfléchir sur ce que c'est que le travail. Et par là vous entrerez en philosophie. Pour chacun d'entre nous, il y a une voie d'accès. La voie la moins directe, c'est la logique. Ça, oui. Parce que la logique ne nous conduit pas directement. Parce que la logique est loin de la réalité. La logique met notre intelligence emmaillotée. Avec des gants. Fermé derrière la logique. Il y en a beaucoup de peine de dépasser la logique quand on est dedans. C'est l'art des arts. Oh là là. Alors, on trouve ça admirable. Alors, il y a un pharisaïsme intellectuel, je ne dis pas moral, un pharisaïsme intellectuel de la logique. Ce qu'on voit. La scolastique décadente, c'est de la logique. C'est un primat de la méthode. Et c'est une satisfaction de la raison. Mais alors, la contemplation, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus cette liberté intérieure de l'intelligence comme telle. On raisonne. Et on raisonne indéfiniment. Celui qui raisonne de trop n'arrivera jamais à la contemplation. Jamais. Il n'arrivera jamais à la réalité. Parce qu'il reste dans son intentionnalité. Alors il y a des obstacles, c'est très vrai. Mais ne disons pas que notre intelligence n'est pas métaphysique. Elle est faite pour cela. Disons qu'en raison du milieu de notre première éducation, en raison d'une certaine suffisance, oui je dis bien suffisance, pharisaïque, rationnelle, dont on ne peut rien quelquefois, c'est pas moral. On a mis beaucoup de badigeons sur notre intelligence. Elle est restée fermée, rationnelle, en raison d'un pli mathématique trop fort. Je crois quelqu'un qui s'est enfermé dans une mathématique très forte, pas les vraies mathématiques, mais une mathématique logique. Parce qu'il y a deux esprits mathématiques, les intuitifs et les logiciens. Exemples très proches et on s'aperçoit tout de suite la différence et quand on les met l'un en face de l'autre ils ne se comprennent pas, pourtant ce sont des matheux, ils ne peuvent pas parce que l'un est intuitif, l'intuitif comprend qu'il y a autre chose, le logique s'enferme dans la logique. Il faut essayer de comprendre ça pour voir que mon intelligence est faite pour la contemplation. bien ce que je veux dire. Au fond, la contemplation, c'est l'éthique de l'intelligence. Et cette éthique de l'intelligence qui contemple l'être premier, qui contemple Dieu, est religieuse. La contemplation est radicalement religieuse, la contemplation métaphysique. Puisque l'homme est radicalement religieux et que le philosophe cherche à connaître l'homme. Je ne peux pas me couper de l'homme religieux. C'est l'homme religieux qui contemple. C'est l'homme religieux qui contemple en se servant de sa métaphysique. C'est là où vous voyez comment la métaphysique est humaine, surhumaine, et par le fait même parfaitement humaine. Et Aristote et le pape se rejoignent là. L'un et l'autre disent que l'homme ne peut être étudié parfaitement que si on dépasse l'homme. L'homme est un animal tellement particulier, c'est un zèbre, tellement particulier qu'on ne peut le connaître comme homme qu'en le dépassant. Ça fait comprendre l'ontologisme de droite. Je ne peux voir l'homme qu'en voyant Dieu. Malbranche. C'est pas vrai. Mais c'est vrai de voir que dans l'homme, si je ne dépasse pas l'homme, je ne le connaîtrai pas parfaitement. Or, qu'est-ce qui me permet de dépasser l'homme au point de vue connaissance? C'est la philosophie de la matière, du vivant et de l'être. Il y a les trois dépassements. La philosophie de la matière, elle dépasse l'homme par l'univers. J'ai dépassé par l'univers. J'ai dépassé par le bas, par mon corps, mais j'ai dépassé. Le vivant, oui. Si j'atteins l'esprit, si j'atteins l'intelligence et la volonté, et l'être, l'être premier, de sorte que la contemplation philosophique est fondamentalement religieuse, est essentiellement religieuse, puisque c'est Dieu que je contemple. Et l'attitude religieuse, c'est atteindre Dieu. Je suis un religieux dans la mesure où je suis orienté vers Dieu, l'être premier, et que j'essaie d'être en connaturalité avec lui. C'est ça, l'âme religieuse. Saint Aristote dit que le philosophe qui soigne son intelligence et qui cherche à contempler est nécessairement le plus aimé de Dieu que tous les autres hommes. Parce qu'il s'occupe en lui de ce qui est le plus proche de Dieu. S'il s'occupe en lui de ce qui est le plus proche de Dieu, il a les mêmes goûts que Dieu. Et donc il est nécessairement béni de Dieu. C'est là où on voit très bien qu'Aristote n'est pas du tout un païen. Pour dire ça. C'est au contraire éminemment religieux. La métaphysique est éminemment religieuse. C'est pour ça que dans un climat de laïcité, la métaphysique disparaît. Mais complètement. Parce qu'elle est éminemment religieuse, elle est fondamentalement religieuse. Donc, comprenons bien, et c'est pour ça que c'est très bien cette question, comprenons bien que l'éthique religieuse assume pratiquement, mais éminemment pratiquement, toute ma métaphysique, toute ma théologie naturelle. Dans la contemplation de l'être premier. Le contemplatif est éminemment religieux. Il n'y a pas de contemplatif sans être éminemment religieux. Ça n'existe pas. Les mathématiques peuvent faire abstraction de l'attitude religieuse. Et on peut avoir un qu'il soit pas religieux. C'est impossible. C'est contradictoire dans les termes. Évidemment, aujourd'hui, quand on dit ça, on a l'air d'être... Ah, vous êtes un rétro, hein. Et alors, les auteurs disent, mais vous avez coupé vos bases. La laïcité poussée à l'extrême coupe l'homme de son origine, fait de l'homme un orphelin. Et l'humanité se terminera en étant orpheline. Parce qu'il y aura un tel sentiment de vengeance vis-à-vis de l'homme qui a mis l'homme orphelin, qui brisera tout. Ce qui cherchera son origine, et on mettra de tels obstacles à chercher son origine, qu'il brisera tout. Le refoulement le plus terrible, c'est le refoulement religieux. Et nous avons tous, hein, tous, quelque chose là à dépasser. Parce qu'on est positiviste. On est laïque, avec plus ou moins de couches, on l'est. Il faut arriver à dépasser ce point de vue-là. Alors, je continue, parce que je peux contempler, contemplation philosophique, contemplation de théologie naturelle, je peux contempler quand je veux, mais il faut avoir de la volonté. Dans la contemplation mystique, je ne peux pas contempler quand je veux. C'est tout l'abîme qui est entre la contemplation philosophique et la contemplation mystique. Dans la contemplation mystique, je peux m'y disposer, l'oraison. J'exerce la foi, l'espérance et la charité. Je me mets en présence de Dieu. J'ai un désir de me mettre en présence de Dieu par la foi, l'espérance et la charité. Me mettre en présence de Dieu, c'est vivre le mystère de la sagesse de la croix. C'est par la sagesse de la croix que je peux me mettre de la manière la plus immédiate en présence du Dieu amour. Donc je peux me disposer à la contemplation mystique. Mais je ne peux pas y entrer de moi-même. C'est la grâce du Saint-Esprit. Mais je peux en avoir soif. Et je dois en avoir soif. Tandis que je peux, quand je veux, adorer et contempler. Alors, il peut se faire, parce que... Il peut se faire que l'imaginaire et l'état passionnel est tel que j'ai l'impression psychologique de ne pas pouvoir adorer, de ne pas pouvoir contempler. C'est très vrai. Parce que je suis dans un cocon psychologique tel que j'ai l'impression de ne pas pouvoir contempler. On devient esclave de notre psychologie. Et on devient esclave de notre psychologie par l'imaginaire qui en nous est devenu quelque chose de tellement fort, tellement fort, tellement fort. Il est lié à la passion et j'y arrive plus. Et notre monde, par le développement de l'imaginaire, le démon est une astuce prodigieuse. Il tue l'attitude religieuse par le point de vue imaginaire. La télévision, le cinéma, les romans, le journal, les médias sont des hommes qui augmentent l'imaginaire dans le monde d'aujourd'hui, terriblement. Ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent le vraisemblable en le gonflant le plus qu'ils peuvent. Les sensations effrayantes, terribles, dans le domaine de la crainte, dans le domaine de l'amour. Passionnel, sexuel, dans le domaine peine, des rêves, des nostalgies, des possibilités de l'homme. Demain, demain, l'homme sera victorieux de tout. Demain, demain, l'homme dominera tout. On gonfle l'homme. Mais ça, c'est la propagande. Avant la propagande imaginative, il y avait la congrégation de la propagande. Ça existait avant, parce que c'était la foi. Alors ça s'est laïcisé. Et alors, ce développement imaginaire, terriblement fort, nous met dans un cocon de satisfaction de soi, dans l'imaginaire. Parce qu'en réalité, c'est une satisfaction de soi. Et c'est une idolâtrie de soi. Parce que l'imaginaire, c'est nous. Et on est des idolâtres de nous-mêmes. Et on ne cherche plus la vérité. Alors, ne cherchant plus la vérité, on n'arrive pas à adorer et à contempler. Donc, nous nous sommes mis nous-mêmes. Petit à petit, on a été asphyxiés. Nous nous sommes mis nous-mêmes esclaves de notre imaginaire. Et c'est pour ça, quand on dira à quelqu'un, contemple, dire, mais c'est impossible, je ne peux pas. Ah, attention, vous ne pouvez pas lutter. C'est évident, en descendant la plante, vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez vous arrêter. Lutter, travailler pour augmenter votre volonté, votre appétit spirituel. Ah, c'est toute une éducation et toute une rééducation. C'est le noviciat du Saint-Esprit. On est tout le temps des novices du Saint-Esprit pour s'apercevoir que c'est vrai. L'imaginaire en nous est devenu tellement fort que quelquefois on a l'impression de ne plus pouvoir adorer et de ne plus pouvoir contempler naturellement. Alors que l'adoration, je peux adorer quand je veux. L'adoration et la contemplation, je peux contempler quand je veux. C'est sûr. La contemplation philosophique, je peux la faire quand je veux. Mais évidemment, il faut dépasser l'imaginaire. Il faut dépasser l'état passionnel. Et c'est même quand vous avez l'impression de ne plus pouvoir adorer quand vous voulez et de ne plus pouvoir contempler quand vous voulez. C'est à ce moment-là que vous vous apercevez que vous êtes esclave de votre imaginaire et de vos passions. C'est à ce moment-là que vous vous apercevez de ça. Vous êtes esclave de ça. Vous êtes devenu esclave. Votre père est le démon. Vous ne l'avez pas voulu, c'est évident. Mais vous vous êtes mis dans cet état-là parce que vous n'avez pas voulu développer suffisamment l'adoration, les 7 actes d'adoration par jour, qui nous aident à sortir de cela et qui font de nous des êtres qui veulent une volonté qui se rectifie par rapport à Dieu. Ça, c'est notre éducation qu'on prend en main, notre auto-éducation. On s'actue soi-même en sachant que par l'adoration et par la contemplation naturel, on rencontre la réalité, Dieu. On se met en présence de lui. Et se mettant en présence de lui, on frappe à sa porte. On dérange Dieu. On frappe à sa porte. Il y en a qui ne dérange jamais plus Dieu, ils ne le rencontrent jamais plus. Ils restent dans leur imaginaire et dans leur passion. Et petit à petit, demeurant dans l'imaginaire et l'imagination, ils n'arriveront même plus à rencontrer l'homme. Et donc l'amitié disparaît. On n'a plus que l'efficacité. On n'a plus que le boulot. C'est même plus le travail, c'est du boulot. Efficace, qui fait gagner de l'argent. Mais on n'est plus humain. On devient un robot. Et on voit très bien comment le démon arrive à dégrader l'homme sans qu'il s'en aperçoive. Un glissement continu qui se fait par le point de vue de l'imaginaire et le point de vue de la passion.